Il est midi passé de bientôt 4 minutes, vous êtes toujours sur RCJ, édition spéciale, 5 ans après la tuerie de Toulouse. Hommage solennel est rendu ce matin à Toulouse aux victimes de Mohamed Merah de l'école Ozar HaTorah, rebaptisée depuis école Ozar HaTorah. Hommage rendu donc depuis une heure à peu près à Jonathan Sandler, ses deux fils Harry et Gabriel, ainsi que la jeune Myriam Monsonego, la fille du directeur, et également Daron Brian Bijaoui, qui avait été blessé par le terroriste. Une cérémonie aura lieu également ce soir, en début de soirée, à la synagogue Notre-Dame de Nazareth à Paris. Nous allons revenir dans quelques instants avec le président du CRIF Toulouse en direct depuis la rue Ville-Rose sur les cérémonies qui se sont déroulées donc ce matin en présence de plusieurs ministres et de nombreux élus. Mais pour l'instant, Laurence Goldman, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en ligne avec Fred Khelif. Qui est Fred Khelif ?
Oui, Fred Khelif, c'est un père de famille de Toulouse, donc il est membre du Fonds social juif unifié, le FSJU à Toulouse. Deux de ses filles étaient sur les lieux de l'attentat au moment de l'attaque. Bonjour Fred Khelif, merci d'être en ligne avec nous sur RCJ depuis Toulouse. Racontez-nous cette matinée du 19 mars 2012. Vos filles étaient élèves à l'école Ozar HaTorah. Elles étaient déjà sur place au moment de l'attaque.
Le 19 mars, il est 8h du matin, je reçois un coup de fil de ma sœur qui me dit: Fred, je viens d'entendre à la radio, il y a des coups de feu à l'école à Ozar HaTorah. Est-ce que les filles sont ? Je lui réponds oui et je raccroche de suite. Et j'appelle de suite ma fille qui a un portable, qui est en troisième, et une autre qui est en cinquième et qui sont toutes les deux à l'école, scolarisées au collège lycée Ozar HaTorah à Toulouse. Je l'ai au téléphone. Par chance, elle me dit qu'elle est en pleurs. Elle me dit: je sais pas ce qui se passe, on est sous les lavabos cachés des sanitaires avec Noah, donc ma deuxième fille, et donc c'est un énorme soulagement pour moi. Alors j'essaie de la rassurer en lui disant que tout va aller, qu'elle ne s'inquiète pas, qu'il y a la police partout, et qu'elle reste là où elle est, qu'elle écoute les instructions. Voilà, donc elle a quand même ce sang-froid extraordinaire de me répondre et de me dire: oui papa, donc je lui dis que je l'aime, et qu'elle embrasse bien fort Noah, qu'elle fasse attention, qu'elle reste ensemble, et qu'elle suive les instructions de la professeure avec laquelle elles sont, et pour laquelle, qui les a sauvées en quelque sorte, parce qu'elles étaient à 10 mètres de l'assassin. Et donc elles sont rentrées avec un petit groupe de filles, elles venaient juste de passer devant lui en fait. Et donc sur ce, comme c'est mon beau-père qui les dépose le matin, j'appelle de suite mon beau-père pour savoir si tout va bien, parce que il est censé être au même moment devant l'école. Et je tombe sur son portable, il me dit oui, il est tout apeuré, il me dit c'est une catastrophe. Je lui dis voyez si vous pouvez vous occuper des filles ou si vous pouvez rester avec elles. Donc il me dit oui, vous inquiétez pas. Donc sur ce, j'appelle mon épouse, qui a entendu à la radio et qui se dirige donc à son travail de l'autre côté de Toulouse, et qui a entendu à la radio, qui est en larmes au téléphone. Je la rassure en lui disant que je viens d'avoir mes filles. Moi, entre-temps, je suis avec ma troisième fille, qui, et on l'apprendra juste un peu plus tard, est dans la classe d'une des victimes de Harry Sandler, puisque nous avons deux écoles à Toulouse, le collège lycée Ozar HaTorah et l'école crèche maternelle et primaire Gan Rashi. Et les trois enfants victimes sont scolarisés ce jour-là, sont scolarisés à ce moment à l'école Gan Rashi, dont Arié Sandler, qui est dans la classe de ma fille, donc en dernière section de maternelle à cette époque. Donc je prends ma fille, évidemment, je l'amène de suite chez mes beaux-parents, chez ma belle-mère, qui est en larmes. Donc je lui dis de garder son sang-froid, qu'on est au niveau de la communauté, on va faire ce qu'on peut, que les autorités sont au courant, etc. Et là, il est 8h10, puisque on a été très très vite. Et 8h15, le téléphone sonne de partout au niveau de la communauté. Comme je fais partie de la communauté, des bénévoles de la communauté, etc. Et du SPCJ notamment, je décide à l'époque, parce qu'on m'a enseigné, je décide de...
De vous rendre sur place ?
Non, pas de se rendre sur place, ça sert à rien, il y a les policiers, il y a un monde fou, mon épouse est sur place, ils sont derrière des barrières, on leur interdit de rentrer dans l'école, Entre-temps, j'ai encore une fois ma fille, mais très très vite, parce qu'après, tous les téléphones sont coupés dans le secteur.
Elles étaient toujours confinées à l'intérieur de l'école.
Elles étaient confinées à l'école, le temps de que les policiers, le SAMU.
Combien de temps ça a duré en tout? Elles vous l'ont dit? Elles ont une idée du temps?
Écoutez, c'était très très vite. Elles m'ont dit, on a cru que c'était des pétards. On était à côté, on était juste après la fête de Pourim. Donc elles ont cru qu'il y avait encore des jeunes de l'internat ou qui jetaient des pétards, des trucs comme ça. Mais quand elles se sont retournées et qu'elles ont vu ce qui se passait, elles ont vu en mettant la tête juste, mais enfin très très vite quoi, elles ont vu courir à droite, à gauche, tout le monde. Elles ont et qu'elles ont été prises par une professeure. Elles ont été embarquées avec les 4-5 élèves avec qui elles étaient juste sous le porche à l'entrée de l'école, et elles ont été embarquées sous les lavabos pour se mettre en sécurité. Et donc, ça a duré dans leur tête un temps interminable, mais en réalité, ça a duré. Elles sont restées là, je pense, une bonne demi-heure, trois quarts d'heure, le temps que des policiers viennent, sécurisent et vérifient qu'il n'y ait pas d'autres personnes qui soient à l'intérieur, un autre assassin. Donc, ils ont vérifié tout ça. Puis après, ils les ont amenés tous au réfectoire, le temps que les corps soient pris de là où ils étaient.
Mmh. Et ensuite, vous avez pu récupérer vos filles?
Alors, pas de suite. Moi, on a été sécurisé l'école Ganrachi. Donc, moi, j'étais avec tout un groupe. On a sécurisé, en fait, les lieux où il y avait du monde de la communauté. On a demandé à tous les parents de venir récupérer de suite leurs enfants à l'école maternelle, primaire et à la crèche. Donc, tout le monde est venu petit à petit jusqu'à 10 heures à peu près. Et à ce moment-là, on a eu des réunions. Mon épouse était sur place, donc elle a récupéré mes filles, mais uniquement après 10h, 10h30, même 11h, avec tout un groupe d'internes, des parents d'internes qui sont arrivés en urgence à la fois de Paris, à la fois des villes environnantes dans lesquelles desquelles viennent des enfants qui sont internes à l'école Otaratora. Et donc ils sont tous allés à la maison, voilà. Et là, moi, je les ai retrouvés à la maison. Évidemment, on était tous sous le choc, et on a essayé on a offert bien sûr à boire à tout le monde. Il y avait pas mal de monde à la maison. C'était bien parce qu'on avait besoin d'être tous ensemble. Mes filles étaient très, les jeunes ne réalisaient pas encore, donc ils étaient heureux de se retrouver, d'être ensemble. Mais au fur et à mesure des informations qui venaient, des noms des victimes, on était effondrés, puisqu'on connaît très bien Yakov et Yafa Mansodego. Ce sont avant tout des amis, avant d'être les directeurs de nos filles. Et puis après, quand on a appris que le petit était dans la classe de Metz, enfin de ma dernière fille, c'était un déchirement. La petite Myriam, on la connaissait très bien, on la voyait tous les jours à l'école. Et puis Arié et Gabriel Sandler, les petits, et Jonathan Sandler, ils étaient là que depuis quelques mois, donc on les connaissait pas très bien. Mais la Ava Sandler était la prof de Kodesh de ma fille aînée, et donc c'était très 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 dur. Aujourd'hui, ils ont des relations encore très fortes, puisqu'ils correspondent toujours. Yakov et Yafa, on les voit pratiquement tous les jours.
Fred Khalif, cinq ans après ces attaques terroristes, comment vivez-vous vos filles qui étaient donc présentes ce jour-là? Comment vont-elles?
Elles ont été suivies une psychothérapie, évidemment, qui a duré pas mal de temps. Encore aujourd'hui, elles sont en contact régulier dès qu'elles replongent, quand il y a eu les attentats en 2015, hyper cachère, etc. Elles ont replongé, elles ont re-été en contact avec leur psychologue, qui a fait un travail extraordinaire, hein, parce que c'est une personne, une femme qui a fait un travail extraordinaire. Et donc, ça leur a permis vraiment d'avoir cette force de résilience. Et il faut dire qu'aujourd'hui, c'est les enfants qui nous ont montré l'exemple à Toulouse. Et je veux dire, ils ont été très forts. Et nous, on était effondrés. Mais quand on voit la vie des enfants, la force qu'ils ont, le courage, la classe de Myriam qui est à l'école hors Torah aujourd'hui, tout entière, qui est restée soudée, qui sont des jeunes qui ont toujours Myriam avec eux en tête. D'ailleurs, Myriam est toujours là. On peut pas, enfin, se viennent à Toulouse et qui vont voir la classe où elle était et toute sa classe. On sait que Myriam est là. Quoi, voilà.
Merci Franck Khalif pour ce témoignage 5 ans donc après l'attentat de Toulouse contre l'école juive aux arts à Torah. Merci d'avoir été avec nous sur RCJ.
Et nous sommes en ligne avec Ariel Goldman, le président du FSJU. Ariel Goldman, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en ce dimanche matin pour revenir sur cet anniversaire. Il y a tout juste 5 ans, jour pour jour, l'école aux arts à Torah de Toulouse était donc le théâtre d'un assassinat, l'assassinat de Jonathan Sandler, de ses deux fils et de la petite Myriam Monsenego. Vous étiez à l'époque, Ariel Goldman, responsable du SPCJ, le service de protection de la communauté juive. Est-ce que vous vous souvenez de la façon dont vous avez appris cet attentat et pouvez-vous nous dire comment vous aviez pu réagir à l'époque?
Je crois que comme tout un chacun, en tout cas toutes les personnes de la communauté juive et probablement au-delà, on se souvient très bien, ça fait partie des événements tragiques et historiques dont on se souvient de l'endroit où on se trouvait et de ce qu'on faisait au moment précis. Donc je me souviens que c'était un matin et que je me rendais à mon bureau quand tout d'un coup effectivement j'ai reçu un appel du directeur du SPCJ m'annonçant des tirs sur l'école. On ne savait pas exactement ce que c'était, on n'avait pas idée de la gravité à la minute où on recevait l'information, et puis effectivement ensuite je me suis rendu à la cellule de crise à l'espace Rachi et tout est allé très vite. Voilà un petit peu mon souvenir à vif. Et je dois dire que très peu de temps après, dans la matinée, quand on a appris le nom notamment de la famille Sandler, j'ai fait le rapprochement avec cette famille qui est proche de la mienne, mais je ne savais pas que Jonathan habitait Toulouse, donc je n'ai pas pu penser que c'était lui, et donc se sont mêlées des histoires personnelles à une histoire nationale et internationale qui fait que j'avais connu Jonathan enfant, j'étais à son mariage, j'étais même au mariage de ses parents, donc en plus de la responsabilité communautaire qui était la mienne, il y avait une douleur personnelle encore plus forte.
Aujourd'hui, 5 ans après, Ariel Goldman, la France, hommage national, est rendu donc aujourd'hui aux victimes de cet attentat. Est-ce que, selon vous, la France a tiré les leçons de ces assassinats?
Ce que je pense, c'est que effectivement, si la France a été Charlie et a été un peu hyper cachère, elle n'a pas été du tout aux arts à Torah. Et peut-être que les responsables politiques, en tout cas, et certains médias doivent s'en mordre les doigts, parce que si les choses avaient été prises avec plus d'ampleur, si on n'avait pas parlé de loup solitaire, si on n'avait pas fait comme si un attentat qui arrive ne peut pas en cacher d'autres, probablement que beaucoup de catastrophes auraient été évitées, mais on ne peut pas faire gouverner avec le journal du lendemain. Donc je comprends aussi que dans le choc dans lequel nous nous trouvions et dans l'ambiance dans laquelle on était en période électorale avec un gouvernement qui finissait sa mission, eh bien les choses étaient perçues comme ça. Il faut se rappeler que beaucoup de temps a été perdu entre les assassinats des soldats à Montauban et à Toulouse et l'assassinat de Tzara Torah, parce que notamment des pistes vers l'extrême droite ont été explorées. Enfin, je ne vais pas refaire l'enquête, il y aura un procès. Et d'ailleurs, j'ai l'honneur de défendre la famille Sandler bénévolement, bien évidemment, avec mes confrères Kugman et Elie Korchia. Et on aura l'occasion, dans le cadre du procès qui se tiendra dans quelques mois, de refaire tout ce parcours. Mais je crois qu'effectivement, aujourd'hui, 5 ans après Hyper Cacher, après Nice, après Magnanville, après l'assassinat du curé Hamel, eh bien, beaucoup de choses ont changé dans ce pays, notamment sur la perception du terrorisme, mais également de manière concrète et opérationnelle.
Il y a eu, Ariel Goldman, mercredi, il y a quelques jours, une cérémonie à Sarcelles en hommage à ses victimes. Et le père de Jonathan Sandler a pris la parole, notamment aux côtés de Bruno Leroux, le ministre de l'Intérieur, qui était présent pour cette cérémonie. Il a regretté que l'on parle toujours de Mohamed Merah et qu'on ne parle pas des victimes, qu'on ne nomme pas les victimes. Est-ce que pour vous aussi, il y a un problème, je dirais, parce que je n'ai pas d'autre mot à l'instant pour le définir, un problème pour nommer effectivement les victimes de ces attentats? On appelle toujours les victimes avec le nom du terroriste et pas les victimes par leur propre nom.
C'est, c'est un combat que Samuel Sandler mène avec beaucoup de force et de dignité, et je le partage, il a tout à fait raison, il faut s'employer à effacer le nom de l'assassin pour sans cesse rappeler les noms des victimes. En même temps, c'est un problème éternel. Vous prenez toutes les affaires criminelles qui ont eu lieu, et bien très souvent, on se rappelle davantage du nom de l'assassin que du nom des victimes. Et je crois que c'est un combat intéressant, noble et salutaire que mène Samuel Sandler à cet égard. Et il y a eu d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, des décisions d'organes de presse, de télévision, de chaînes info, où on décidait de ne plus dire les noms, même à l'annonce, les noms des auteurs, pour se concentrer sur les noms des victimes. Je crois que c'est un bel hommage qu'on peut rendre aux victimes et effectivement une manière d'effacer le nom de ces assassins.
Sans violer quelques secrets de l'instruction que ce soit, Ariel Goldman, vous nous évoquiez il y a quelques instants le procès qui aura lieu dans quelques semaines, quelques mois. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un tel procès de ces attentats, vu que le principal assassin, le principal terroriste n'est plus là?
Alors d'abord, il y a derrière les barreaux encore le frère de cet assassin, et on sait que dans cette famille, à part peut-être une exception, mais ils étaient tous très impliqués. On se souvient de la sœur qui est partie en Syrie, on se souvient de la mère qui couvrait ses fils, et donc ce frère qui est renvoyé pour complicité, eh bien, a certainement beaucoup de choses à dire, et en tout cas à expliquer. On a également à attendre, disons, la vision historique et tout le parcours, le cheminement de cet assassin avec ses complices, ses complicités éventuelles, ses ramifications internationales, parce que malgré tout, il y en a certaines. Et puis je crois que pour les victimes, il y a évidemment la famille Sandler, mais il y a les familles des soldats, il y a les familles des élèves de l'école Ozaratora qui étaient confinés et qui ont été également des victimes, bien entendu, de degrés différents de ceux qui ont perdu la vie ou qui ont été gravement blessés. Il y a Brian Bijawi, qui est un survivant dont je défends également les intérêts. Il y a ce soldat libre qui lutte pour survivre à l'hôpital des Invalides. Bref, il y a tout un tas de personnes pour qui, eh bien, la vertu pédagogique d'un procès est importante, et c'est une sorte de justice qui leur est rendue, et c'est la justice qui passe, même si le principal auteur effectivement a été tué au moment de l'assaut.
Pour conclure, Ariel Goldman, avez-vous entendu parler d'initiative d'un autre frère de Mohamed Merah qui, en principe, devrait arriver à Paris ce dimanche? Il est parti il y a quelques semaines de cela à pied de Marseille pour sensibiliser, selon lui, les jeunes, justement, au risque de radicalisation islamiste. Le père de Jonathan Sandler a condamné lui-même cette initiative à Sarcelles. Vous en pensez quoi, vous-même, à titre privé? À titre personnel.
Écoutez, d'abord, je m'exprime pas à titre privé, donc je m'exprime comme responsable communautaire. Je pense que toutes les initiatives qui vont dans un sens pédagogique peuvent être bonnes. Maintenant, il faut effectivement vérifier les bonnes intentions des uns et des autres. Et je comprends qu'en tant que père et grand-père de ces victimes, Samuel Sandler le vive très mal. Dans un autre domaine, il y a le combat de Latifa et Ben Zlaten qui est important, qui est ample et qui est sur la durée. Voilà, je crois que on peut pas en vouloir au frère d'un assassin d'essayer de vouloir, comme il le peut, porter une parole plus apaisée et éducative. Et maintenant, on ne peut pas en vouloir non plus aux pères et grands-pères de victimes de ne pas supporter cette image du nom de famille du même assassin qui est repris par les plateaux de télévision ou les titres des journaux. Voilà. Je crois que ce sont deux démarches qui sont tout à fait compréhensibles l'une comme l'autre, et je soutiens bien évidemment Samuel Sandler dans tous ses combats, et je m'associe à cette pensée qu'il a contre, pas ce frère, mais contre cette démarche de médiatisation finalement d'un frère qui devrait peut-être faire malgré tout profil bas.
Merci Ariel Goldman, président du FSJU, d'avoir répondu à nos questions en ce dimanche anniversaire, cinquième anniversaire donc des tueries de l'école Ozaratora de Toulouse.
Et ce soir, permettez-moi de vous interrompre, Ce soir, bien entendu, je me rendrai, j'espère avec beaucoup de Parisiens et de Parisiennes, à la synagogue de Nazareth, où le consistoire a pris l'initiative d'organiser un grand office en commémoration, notamment de ces assassinats, mais également pour toutes les victimes du terrorisme.
Nous devrions d'ailleurs, dans quelques instants, être en ligne à ce sujet avec Joël Merguil, président du consistoire. Merci. Merci à Ariel Goldman d'être intervenu en ce jour anniversaire. 12 heures passées de 25 minutes. Laurence Goldman, comme je le disais à l'instant, vous êtes en ligne avec le président du consistoire, Joël Merguil.
Bonjour Joël Merguil.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous sur RCJ. Jonathan vient de le dire, une cérémonie commémorative aura lieu ce soir à Paris, à la synagogue Notre-Dame de Nazareth. Ce sera à 19h. Les familles des victimes de l'école Lozara Torah seront présentes. Vous appelez, Joël Merguil, la communauté juive de Paris à venir vous rejoindre pour cet hommage?
Oui, bien sûr. Je crois que nous sommes un peuple qui n'oublie pas. Nous sommes mobilisés et c'est important que ce soir, autour notamment de Samuel Sandler et de son épouse qui prendra la parole, que nous soyons tous présents et qu'on continue à se souvenir de ce premier office que nous avions organisé, souvenez-vous, il y a 5 ans, le jour même, le 19 mars 2012, nous avions organisé cet office à la Grande Synagogue Notre-Dame de Nazareth le soir même de l'assassinat. Et c'était aussi dans le même contexte une campagne électorale, c'était aussi un moment, un tournant dans l'histoire de notre pays, puisque le monde comprenait, peut-être commençait à comprendre en tout cas qu'on assassinait des soldats et que la même main venait assassiner des juifs dans une école juive, et que depuis on a vu le djihadisme se révéler au grand jour et continuer à faire les meurtres que nous connaissons depuis 5 ans. Et d'ailleurs nous rendrons hommage à toutes les victimes du terrorisme en France, en Israël et dans le monde.
Comment se déroulera cette cérémonie? Est-ce que Bruno Le Roux, le ministre de l'Intérieur, qui est ce matin à Toulouse, sera présent? Et est-ce que vous attendez d'autres personnalités ce soir?
Oui, alors c'est une cérémonie dans une synagogue, donc c'est toujours une cérémonie solennelle où on allumera des bougies à la mémoire des victimes de Toulouse, mais aussi de Montauban, puisque c'était la même main et le même moment de Montauban et de Toulouse. Bruno Le Roux ne sera pas là, mais il y aura Juliette Méadel, secrétaire d'État aux victimes. Il y aura Manuel Valls, qui a accompagné la communauté juive dans tous les soucis que nous connaissons ces dernières années. François Fillon, qui était aux commandes du gouvernement au moment du drame de Toulouse. Gérard Larcher, président du Sénat. Enfin, il y aura un certain nombre de personnalités, mais il y aura beaucoup, j'espère, la communauté juive qui reste vigilante et mobilisée et qui n'oublie pas. Et je crois que c'est très important aujourd'hui qu'on se souvienne, je l'ai répété à de très nombreuses reprises depuis 5 ans, et je crois que je vois les reportages à la télévision aujourd'hui, je veux qu'on oublie le nom de l'assassin et qu'on se souvienne malheureusement des prénoms et des noms d'Arié, de Gabriel, de Myriam et de Jonathan, qui sont ceux qui sont partis en nous léguant ce qu'ils représentaient, un enseignant dans une école juive, des enfants qui apprenaient dans l'école juive, en sachant que leurs parents, ce matin, étaient à Toulouse, que ce soit Samuel Sandler et son épouse, que ce soit monsieur et madame le Ravon Sonego, qui n'a pas renoncé à sa mission d'enseignant, qui est resté depuis 5 ans dans l'école où a été assassinée sa fille, pour continuer à transmettre aux élèves le judaïsme, et Samuel qui est à nos côtés au consistoire pour continuer à construire la vie juive au quotidien. Je crois que c'est aussi le message de dignité qu'ils ont. Rappelez-vous à ce moment-là où nous découvrions le drame de l'antisémitisme et de l'antisionisme. C'était le message de dignité qu'ils nous ont donné depuis tant d'années, qu'ils continuent à poursuivre sans la haine des assassins et avec l'accompagnement et l'amour de notre communauté et de façon plus générale de notre société.
Joël Merguil, président des consistoires, dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui alors qu'on l'a vu encore hier, la menace terroriste est toujours aussi forte dans notre pays?
Je crois qu'on doit plus que jamais rester mobilisé. Nous sommes dans une période difficile, qui est une période qu'on a déjà connue, qui est une période d'incertitude. On le voit avec les débats qui ont lieu autour des élections, où parfois on perd le sens réel des enjeux électoraux. Une période d'incertitude, c'est jamais une bonne période pour la démocratie, c'est jamais une bonne période pour la communauté juive qui sait, comme on l'a dit, le canari dans la mine, comme le baromètre de l'histoire, qui sait que dans ces périodes d'incertitude, nous sommes les premiers à sentir les difficultés. Et oui, aujourd'hui, je crois que plus que jamais, tous ceux qui réfléchissent à l'avenir de notre pays, à l'avenir du monde, doivent savoir qu'un combat, une nouvelle guerre doit être menée contre les promoteurs de la haine djihadiste, de la haine islamiste radicale. Il ne faut pas avoir peur des mots. Et il faut qu'on continue ce combat, au moins en mémoire des centaines, voire des milliers de morts qu'a pu faire cette haine dans le monde.
Merci Joël Mergui, président du Consistoire. Merci d'avoir été en direct avec nous dans cette édition spéciale. Une cérémonie donc à la mémoire des victimes de l'école aux Arts à Torah aura donc lieu ce soir à Paris à 19h à la synagogue Notre-Dame de Nazareth.
Merci Laurence Goldman pour cette édition spéciale. Il est midi et demi.